retrouver en direct de Lourdes pour vivre avec vous cette émission spéciale consacrée au pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Et alors c'est une double joie, un parce que dans les circonstances actuelles, c'est vrai que beaucoup de pèlerinages ont décliné quand même cette année pour venir à Lourdes. Et là, évidemment, c'est la joie de voir un pèlerinage constitué. Et puis en même temps, aussi, autre joie, c'est bien sûr la Bigorre qui retrouve son sanctuaire. Pour parler, pour commencer cette émission, nous recevrons d'abord Pierre Jamet, qui est le vicaire général du diocèse de Tarbes-Lourdes. Et puis, juste après, nous aurons la chance d'entendre aussi Sabine Bergère, qui est coordinatrice de l'équipe mission. C'est une très belle chose qui se vit au sein de ce diocèse, que ces missions qui irriguent et nourrissent ce diocèse. Pierre Jamet, bonjour.
Bonjour Mathias.
Rapprochez-vous du micro, Pierre.
Avec plaisir.
Vous n'êtes pas en pèlerinage, vous n'êtes pas venu en marchant ce matin ou cet après-midi, vous êtes venu en voiture.
Je l'ai fait ce matin.
Ah, parce qu'il y a la marche diocésaine qui est en train, en ce moment, de se terminer et qui arrive au sanctuaire. C'est pour ça que je vous pose la question. Et nous aurons d'ailleurs en direct tout à l'heure, nous aurons Anne-Rose Jankovic qui nous parlera de l'arrivée de cette marche diocésaine. Pierre Jamet, comme vicaire général du diocèse de Tarbes-Lourdes, vous êtes sans doute heureux que la Bigorre puisse effectivement organiser son pèlerinage à Lourdes, comme d'habitude, même si les circonstances sont très particulières tout de même. Ça change tout ce qu'on vit là, et pourtant il faut continuer à vivre et avancer.
Absolument, avancer, de toute façon c'est bien le propre d'un pèlerinage, c'est de se mettre en route, de marcher, et de marcher précisément à la suite du Christ, mais de ne pas marcher seul avec les autres. Alors bien sûr, nous sommes dans un contexte particulier, et que la tentation, c'est de faire ce que nous faisons habituellement, d'imaginer, on a fait un grand pèlerinage, et puis ensuite on réduit en fonction des contraintes. C'est pas forcément la meilleure des propositions. Après, on peut imaginer d'autres propositions beaucoup plus transverses au niveau d'un diocèse, qui est une petite délégation qui vienne là vivre au sanctuaire proprement dit, et puis que simultanément puissent se jouer d'autres choses à travers le diocèse. C'est aussi une autre proposition. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il est bon de pouvoir se retrouver à plusieurs pour bien marquer une dynamique, le plaisir d'être ensemble, le besoin d'être ensemble, de conforter notre foi. Et puis dans ce contexte particulier, je pense qu'il y a aussi un aspect important qui est celui de la solidarité. Le diocèse de Tarbes-Lourdes a la chance, le bonheur, d'avoir ce sanctuaire au cœur de notre diocèse. Et nous voyons bien que la situation sanitaire a fait que le sanctuaire aujourd'hui et tout ce qui tourne autour du sanctuaire et toute la région immédiate autour du sanctuaire vit une vraie difficulté économique. Et plus qu'économique, beaucoup de personnes sont dans une vraie perte de sens et de repères, parce qu'ils n'ont plus leur travail, parce qu'ils sont que tout cela génère beaucoup d'inquiétude et d'angoisse. Et donc je crois qu'il y a une dimension de solidarité, c'est-à-dire de se rassembler ensemble, de venir à Lourdes pour bien manifester que ce sanctuaire vit. Et d'apporter le plus de monde possible, bien évidemment dans les contraintes imposées par la situation sanitaire, pour bien montrer que le diocèse est là, que le diocèse est aussi solidaire de la situation de tous ceux qui travaillent à Lourdes.
Vous allez voir beaucoup d'invités à un défilé devant nos micros durant cette émission spéciale consacrée, je le rappelle, au pèlerinage diocésain de la Bigorre à Lourdes. Et c'est vraiment un bonheur que de voir les Bigourdans se réapproprier leur sanctuaire. Parce que Bernadette, la première, bien sûr, est Bigourdane et ce sanctuaire est pétri de ce territoire. Alors, Pierre Jamet, vous nous disiez combien les circonstances s'imposent aux uns et aux autres. Tout de même, vous êtes là. Et ceux qui nous écoutent peut-être se disent, au moment où nous les rejoignons, comment faire pour, même si le train est en marche, le prendre quand même. Demain, il y a la messe auquel tout le monde peut venir participer. Elle est à 11h.
À 11h. Et ensuite, il y aura l'après-midi un temps de prière à la grotte. Et pour finir ce temps de pèlerinage, ça sera à Sainte-Bernadette, à Saint-Pidis, il y aura l'envoi en mission. Voilà.
Celui qui vous a soufflé Saint-Pidis, c'est Alain Esparbès qui est là, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur de Saint-Frère, ce lieu d'accueil des personnes en situation de fragilité et des malades à Lourdes. Et vous êtes coordinateur du pèlerinage. Alors, on aura l'occasion aussi d'échanger avec vous pour que vous nous disiez comment on organise un pèlerinage dans ces circonstances. Je dis d'ores et déjà que nous avons aussi Pierre Garder qui est là, diacre du diocèse et en particulier en mission à Bagnères-de-Bigorre. Et c'est vous maintenant, Sabine, que nous avons envie d'entendre. Vous nous rendez visite pour parler, Sabine Bergère, des missions. L'équipe mission que vous coordonnez, elle doit donner une impulsion, j'ai envie de dire, celle que souhaite Mgr Brouvet, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, dans ce diocèse. Et dites-nous où vous en êtes de ce point de vue. Le Pélé, la mission elle-même, hein, elle en fait partie. Et globalement, où ça nous mène en ce moment ?
Alors aujourd'hui, ça nous a mené vraiment sur une journée de pèlerinage qui était axée sur le sens de ce départ en mission, le sens de cet envoi en fait en mission que Monseigneur souhaite pour le diocèse. Et donc la journée, elle a été bâtie un petit peu comme une réflexion, un temps où chacun pouvait réfléchir à sa place, comme baptisé d'abord, puis comme disciple, et enfin comme missionnaire. Donc on a deux, entre Saint-Savin et les étapes différentes, et les différentes interventions, c'est ce chemin que nous avons mené pour comprendre en fait qui nous étions baptisés, qui nous sommes disciples et comment nous pouvons être missionnaires, avec différentes interventions et des questions qui nous ont été posées pour commencer à réfléchir. Parce que si on veut parler aux autres, si on veut partager notre foi, si on veut partager notre joie de croire, il faut aussi avoir réfléchi à pourquoi j'ai envie de partager cette joie. Et donc les questions qui nous ont fait réfléchir tout au long de la journée, alors avec des temps de silence et des temps de prière sur la route, ça a été: qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui chrétien dans ma vie? Pourquoi je suis chrétien et pourquoi j'ai envie le dimanche de me lever et d'aller à la messe? Et donc comment je peux répondre ça et partager avec les autres? Où j'ai ressenti les interventions de Dieu dans ma vie, comment j'ai senti la présence de Jésus et quel est mon désir profond aujourd'hui quel est mon désir profond dans l'Église. Et donc Pascal a continué sur ses réflexions à la deuxième pause. Donc en fait, on a réfléchi à notre rôle, nous, mais intérieur en tant que missionnaire.
Vous conviendrez, Sabine, que c'est angoissant ce que nous vivons tous. Ça peut être angoissant pour un certain nombre de ceux qui nous écoutent. Comment garder l'espérance dans tout ça? C'est un peu la mission aujourd'hui. C'est quand même toujours montrer la lueur qu'il y a malgré des brouillards, malgré des souffrances, des pesanteurs et puis des angoisses générées même par l'actualité.
Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que ce qu'on essaye aussi de partager dans l'équipe mission, c'est vraiment la joie de l'évangile. C'est le thème de l'encyclique du pape François. Et c'est ce qu'on essaye de vivre dans l'équipe et qu'on essaye de partager aussi. On vit cette joie de l'évangile. Aujourd'hui, c'était quand même une journée vraiment de lumière sur ce pèlerinage. Le soleil était avec nous, la joie était avec nous, les chants étaient avec nous. On a vécu une journée quand même pleine d'espérance, en toute sécurité, parce qu'on a respecté les distances et tous les gestes barrières. Mais c'était vraiment une journée de lumière. Donc c'était un temps très fort pour tous de se retrouver. On a eu un temps vraiment fraternel, un temps de partage, un temps diocésain. On s'est revus avec des amis qu'on n'avait peut-être pas recroisés depuis longtemps parce que les circonstances des derniers mois ne nous ont pas permis de nous croiser. C'était un temps vraiment de joie et d'espérance et de lumière.
Alors, dernière question, Sabine Bergère. Si ceux qui nous écoutent, qui sont engagés, ou que ce soit dans l'église du diocèse ou dans les territoires, veulent entrer en contact avec l'équipe mission, et c'est sur le site internet, j'imagine.
Bien sûr, il y a toutes nos coordonnées sur le site du diocèse.
Et là, vous mettez au service du territoire ou des gens qui sont en marche sur le terrain.
Tout à fait. Alors notre service en fait est dirigé directement principalement aux paroisses, aux équipes paroissiales, mais pas forcément aux EAP, aux équipes qui peuvent se monter dans les paroisses avec un objectif particulièrement mission, de rencontrer les personnes du territoire, de voir comment on peut être autour de nous. Donc tout à fait, on a les coordonnées sur le site diocèse, le mail, le téléphone, et puis on se déplace très volontiers pour rencontrer les équipes sur le terrain.
Alain Esparbès, vous comme coordinateur du pèlerinage, évidemment il y a tout l'aspect logistique parce que organiser un pèlerinage dans ces circonstances, bon, on sait que ça n'a pas dû être simple. Mais globalement, il faut quand même jamais oublier que le cœur d'un pèlerinage, c'est l'espérance et la joie.
Oui, c'est l'espérance et la joie. La mission qui est la mienne, je la définis de la façon suivante, et ça tombe bien pour un directeur ou un coordonnateur de pèlerinage, c'est de tracer une route, trouver un chemin entre deux limites et qu'il ne faut pas transgresser. La limite de la santé, en ce qui nous concerne aujourd'hui, il est hors de question d'engager le risque de façon inconsidérée. Et aussi, c'est la limite de notre vie en Église, de notre besoin de sacrement. Comment peut-on être chrétien si on ne se rassemble pas? Comment peut-on faire église si on ne se rassemble pas? C'est juste pas possible, ça serait contraire à tout ce que nous connaissons et nous vivons. Comment peut-on être chrétien dans le monde si nous ne vivons pas des sacrements que nous recevons? Voilà, et donc le directeur de pèlerinage, il trouve un chemin entre ces deux limites, et je pense qu'on le trouve. Parce qu'on a une chance, c'est que notre département n'est quand même pas le département le plus en situation de risque aujourd'hui, et donc il y était déjà tout à fait possible de le faire. Et enfin, nous avons fait des choix. Et ces choix, ils sont extrêmement simples à exprimer, plus difficiles à mettre en œuvre. C'est un maximum d'activités à l'extérieur, et lorsqu'il faut rentrer quelque part, dans les plus grands espaces. Par exemple, tous les espaces dans lesquels nous serons demain, c'est Saint-Pédis. Nous serons entre 3 et 4 000 personnes. Nous serons en dessous de la limite qui nous est fixée très largement. Ce soir, nous prenons le dîner ensemble. Nous serons environ 350. Eh bien, la cour des buts de Saint-Fré, qui n'est quand même pas très riante en général, eh bien, est transformée en salle à manger. Donc, on trouve des solutions et on les a, pour le moment, en tout cas, trouvées.
Et le Pélé de Bigorre, c'est forcément aussi tous les visages de ce diocèse. Là, je me tourne vers vous, Pierre Jamais, comme vicaire général. Alors, il y a évidemment peu de personnes en situation de fragilité, voire pas de malades, je pense. Vous
confirmez. Les malades seront... D'abord, les malades sont liaisonnés. C'est-à-dire que aucun malade n'est abandonné. Aucun de ceux que nous connaissons, que nous amenons habituellement, et tous les autres qui nous ont contactés, tous sont liaisonnés. Tous ont été visités. Tous sont en lien avec nous et nous portons leurs prières de façon même extrêmement matérielle, car tout au long du chemin, nous avons porté des intentions de prière. En ce moment, avec Mgr Brouvet, nous sommes en train de ramasser ces intentions de prière et nous allons sur la prairie, devant les chapelles des Lumières, prier aux intentions du diocèse. Donc déjà, aucun de ceux qui désirent venir n'est laissé de côté. Et ensuite, demain, l'hospitalité de Bigorre prend en charge et en soins, mais uniquement pour la journée, une trentaine de personnes qui ne présentent pas de caractère important de fragilité et qui ont vu notre médecin et qui seront pris en charge comme d'habitude, sauf que c'est pour une seule journée.
C'est magnifique hein, qu'à Lourdes, tous les pèlerinages ont comme ciment la fragilité, la maladie, bon, cette année dans des conditions très particulières. Je disais qu'un pèlerinage, c'est tous les visages d'un diocèse, de ce diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors, la jeunesse est là, présente. Bon, on aurait aimé qu'elle soit encore plus nombreuse. Les ados sont présents, les familles sont présentes. Des séminaristes aussi, sont-ils là, Pierre Jamais? Ils sont venus, les séminaristes? Il y en a 3, je crois, dans le diocèse.
Nous avons actuellement 3 séminaristes. Le dernier qui n'est pas tout à fait séminariste, qui est prophédote et qui est à Aix, ne sera pas là. Mais par contre...
Les autres doivent être là.
Par contre, si Jean et puis le frère François-Xavier sont là. Ils seront là.
C'est l'occasion de dire que la vocation, les vocations, ça existe encore. Enfin, c'est important, même s'il n'y en a que 3. Appelons toujours hein, à la vocation.
Les vocations sont là. En même temps, il y a quelque chose qui nous dépasse parce que les appels ne sont pas de notre fait. Donc il faut aussi accueillir des vocations nouvelles, des propositions nouvelles. En tout cas, il faut les discerner, il faut les accompagner, vérifier si, elles sont bien le signe du renouvellement de l'Église.
Et tout à l'heure, on a parlé de paroisse. Ce diocèse est-il encore organisé en paroisse? Parlons un peu organisation, là, juste en passant.
Oui, plus que jamais. Je vois que la question pointe sur l'apparition de ces fameux doyennés ou la recomposition de ces doyennés. Mais encore une fois, il ne faut pas penser l'organisation du diocèse comme une sorte de millefeuille administratif, la paroisse, l'ensemble paroissial, le secteur, le doyenné, le diocèse, etc. Non, La structure, ou plutôt, comment dirais-je, la communauté de base du diocèse territorial est la paroisse. Alors maintenant, nous parlons davantage d'ensembles paroissiaux, et c'est bien cela qui est au cœur de notre diocèse. Et ça a été d'ailleurs le premier chantier sur lequel nous avons travaillé, et qu'il faut encore travailler, ce sont les équipes d'animation pastorale, les EAP. Il y a un livret qui a été fait, il a été lancé il y a 2 ans, et il faut encore prendre le temps qu'il faut pour que la réception complète, non pas de ce livret, mais de cet esprit d'être en EAP, se continue.
Alors les doyennés dans tout ça, c'est quoi? Un regroupement de paroisses ou d'ensembles paroissiaux?
Alors aujourd'hui, le diocèse est structuré en 6 doyennés. Le doyenné, on va dire, c'est un peu 6 régions. Voilà. On peut imaginer le diocèse découpé en 6 régions sur la base des bassins de vie, sur la base qu'impose la géographie. On le voit bien avec les montagnes. Et on pourrait dire que, c'est peut-être un peu du jargon, mais que le doyenné pourrait être une unité motrice. C'est-à-dire que comment fédérer au sein d'un territoire qui a quand même sa cohérence, une convergence autour des paroisses, des mouvements, des écoles catholiques.
Mais ceux qui nous écoutent n'ont pas conscience du doyenné, vous l'imaginez bien, ils ne voient pas très bien ce dont on parle. Ils se dessinent comment ces doyennés? Ils ont une cohérence vraiment qui est adossée à une logique montagne, plaine, Tarbes.
Lorsqu'il a fallu donner un nom au doyenné, nous avons tous donné le nom de la ville principale ou des villes principales, pour qu'il y ait une unité d'appellation. Parce qu'avant, il y avait le secteur du Haut-Adour, de Vert-Adour, et puis ensuite, il y avait Lourdes, Lannemezan. Donc, il y a le doyenné de Tarbes, le doyenné de Lourdes, le doyenné d'Argelès, le doyenné de Lannemezan, qui fait pratiquement le tiers du diocèse, puisque ça va de Trie jusqu'à Saint-Lary, avec la Barousse. Et puis ensuite, vous avez le doyenné de Bagnères-de-Bigorre, et ensuite le doyenné de Vic-Montbourguet.
D'accord, ben là on a vraiment visité tout le territoire.
Et donc, on voit bien que chaque doyenné a une particularité, l'idée, ce n'est pas du tout de découper en 6 morceaux égaux le diocèse, mais encore une fois, de tenir compte de la géographie et des bassins de vie, de la circulation des personnes.
Et on espère que pour le prochain Pélé de Bigorre, vraiment tous les doyennés seront représentés, c'est ça?
Ah oui, cela a été inventé. Je précise quand même une chose importante, que l'unité, encore une fois, reste la paroisse. Et que c'est le curé avec son EAP qui se partagent la responsabilité et le souci pastoral et le souci de la croissance de la communauté. Donc on va dire que le curé, entre guillemets, est maître, d'une certaine façon, accompagné par son OAP, sur le territoire de la paroisse. Donc c'est eux qui vont conduire l'action pastorale. Mon rêve serait que chaque EAP puisse rédiger un projet pastoral, en se disant, tiens, pendant les 2-3 ans à venir, qu'est-ce que nous avons discerné ensemble pour le bien et la croissance de la communauté? Par contre, à chaque doyenné a été nommé un doyen par l'évêque. Mais il ne faut pas imaginer le doyen comme étant un super curé qui va imposer, on va dire, un peu une ligne pastorale propre à chaque doyenné. Non, c'est pour ça que la responsabilité du doyen n'est pas une responsabilité, on va dire, hiérarchique, comme il peut y avoir avec, dans certains diocèses, un évêque avec des vicaires épiscopaux, etc. Mais le rôle du doyen est de favoriser la communion fraternelle entre les prêtres, de favoriser l'unité au sein de son doyenné, d'être attentif aux difficultés des uns, des autres, de sentir ce qui peut être en jeu et de pouvoir mutualiser un certain nombre de propositions. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'impulser une vision pastorale qui serait propre et exclusive pour le doyenné. Ça, c'est le propre de la paroisse.
Oui, on a bien compris. Il ne s'agit pas de faire une organisation administrative froide.
Hein. Exactement.
On a bien compris. Merci Pierre Jamais. Alain Esparbès, vous, comme coordinateur du PELE, c'est un véritable défi hein, que de tenir compte de toutes les parties prenantes. Alors, on a parlé évidemment des personnes malades hein, tout à l'heure, des personnes en situation de fragilité, et puis également des jeunes, la mission hein, qui est au cœur aussi du pèlerinage. Pour tenir compte de toutes les réalités d'un diocèse, quand on est coordinateur du pèlerinage, on fait comment ? On est très à l'écoute ?
On est d'abord extrêmement ambitieux parce que l'on est toujours surpris d'être dépassé par la demande alors que nous n'avions pas imaginé qu'elle serait aussi importante.
Ah.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons jamais eu autant de jeunes. Nous avons arrêté le groupe des familles à 90 parce qu'on avait un problème de logement. Nous étions beaucoup plus nombreux qu'annoncé ce matin à Saint-Savin. Nous avons marché à plus de 400, nous étions 50 sur cette marche l'année dernière. Donc nous verrons demain si, et j'en doute pas une seconde, les paroissiens et les doyens viendront à Saint-Pédis prier ensemble et faire église, et puis surtout entendre cet envoi en mission qui sera ce qui se passera demain après-midi, après le chapelet, à Saint-Pédis. Et à Saint-Pédis, ce sera remarquable, parce qu'on a tout le sanctuaire qui s'est mis en quatre pour nous, qui nous a donné sa régie de Saint-Pédis en entier, de façon à ce que ça soit animé à l'image, au son, à la musique. Donc on a une chance absolument extraordinaire. Nous sommes le diocèse de Lourdes. Et ça, c'est l'appel que nous entendons tous. Et nous sommes habités parce que nous avons tous été saisis à Lourdes.
Vous avez un grand sourire en nous disant tout ça, même si, comme vous nous le disiez, vous avez dû tenir compte de toutes les contraintes sanitaires, toutes ces problématiques. Ça peut paraître même être un vrai casse-tête hein,
oui,
à certains moments.
C'est sûr, on sera légitimement fatigué demain soir. Comment dire ? D'abord, il y a une joie profonde d'avoir toute cette équipe. Nous sommes 22 à travailler avec l'abbé Jean-François Duhard qui nous conduit dans l'ensemble des groupes. Nous avons construit une organisation par groupe, par module. Lorsque l'un patine, l'autre vient. Nous avons reçu des propositions pour coordonner dans le sanctuaire, pour coordonner nos musiciens, pour aider l'équipe mission à remplir justement sa mission pour nous et faire en sorte que ce pèlerinage soit une étape dans l'évangélisation du diocèse pour, encore une fois, vivre en Église. Et je reprends les mots de Monseigneur Jamais, augmenter la communauté.
Magnifique.
Faire accroître la communauté.
Bravo. Merci à vous, Alain Esparbès, qui est directeur de Saint-Fray, je le rappelle tout de même, parce que ça vous occupe un peu aussi, cette fonction, et coordinateur de ce pèlerinage. On vous laisse peut-être vaquer maintenant à vos occupations, parce que sans doute en avez-vous beaucoup. Merci aussi à Sabine Bergère d'être venue jusqu'à nous hein, pour nous parler de l'équipe mission. Pierre Jamais, vous restez là, dans cette émission, jusqu'au bout, si vous le voulez bien. Nous recevons maintenant Pierre Gardère. Approchez-vous du micro, Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous proposons maintenant une immersion du côté de Bagnères-de-Bigorre.
Oui.
Où vous êtes diacre en mission.
Oui.
Comment ça va à Bagnères-de-Bigorre ?
Ben dans le doyenné, puisqu'on parle doyenné, donc parlons du doyenné du Haut-Adour.
Voilà, exactement.
Hein, où Bagnères, effectivement, est l'église mère. Écoutez, pour le moment, ça va. Nous avons effectivement vécu, comme tout le monde, le confinement. Oui. Un déconfinement quand même assez dur. Nous avons perdu quelques unités. Déjà, bon, durant le confinement aussi, il y a eu des personnes qui nous ont quittés pour la Maison du Père. Mais au retour, on n'a pas senti quand même une foule qui venait vers nous. On a senti une certaine résistance, malgré tout ce qu'on avait mis en place pour essayer de rester en lien continuellement avec toutes les personnes qui le souhaitaient, puisque nous avons organisé donc par Facebook la possibilité de communiquer, en particulier pour les messes, en particulier pour Pâques, où nous avons eu beaucoup de difficultés. Et au retour, on a senti quand même un certain nombre de personnes qui avaient peur et qui ne revenaient pas. Ensuite, il y a eu les vacances, donc effectivement, là, de nouveau, il y a eu un trou. Et là, maintenant, ben, nous essayons effectivement de retrouver toutes les personnes que nous avions avant le confinement. Mais nous ne sommes pas encore au nombre voulu et au nombre que nous souhaiterions pouvoir faire pour faire église et pour pouvoir avancer.
Oui, vous sentez que la communauté, elle a un peu ployé, elle a été mise à mal, en difficulté dans ces circonstances.
Tout à fait. Puis même les responsables de mouvements et de services, on les sent sur la réserve.
Oui.
On ne les sent pas revenir avec enthousiasme. Ils ont vécu autre chose. Et du coup, bon, ils sont un petit peu réticents à reprendre le rythme qu'il faut prendre et pour lequel il faut avancer.
Pourtant, là, je m'adresse au diacre que vous êtes. Le chrétien, par essence, il a de la résilience, comme on dit. Il rebondit.
Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, non. Ce que je dis, c'est... Disons, à marge, hein, c'est pour juste...
Mais il faut encourager peut-être aussi, accompagner, écouter. Fin...
On le fait.
Oui, oui, oui.
On le fait. On est là tous les jours, comme je dis souvent, de 8h le matin à 8h le soir, on est là en permanence. Et même au-delà, s'il y a besoin. Hein. Donc, on est là pour essayer, effectivement, d'encourager, d'aider, et puis éventuellement de conseiller aussi, dans la mesure où on nous le demande.
Est-ce qu'on pourrait dire que... Les circonstances ont conduit à des grâces particulières tout de même.
Ah oui, 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 ça c'est incontestable. C'est incontestable. Parce qu'il y a eu quand même des avancées qui ont eu lieu, en particulier pour la communication. On a senti des gens qui s'impliquaient dans la communication. Un exemple tout simple, nous avons donc l'interdiction de donner des feuilles à l'entrée. Donc il y a une équipe qui s'est formée pour pouvoir mettre en place un système donc par télévision qui nous permette de pouvoir avoir les chants, enfin les textes, les chants directement pendant la messe. Vous me direz, c'est pas grand-chose, c'est matériel, mais ça a son importance. Ça prouve que quand on demande quelque chose et que le Seigneur le veut, hein, c'est pour lui. Hein. Nous, on est là que pour semer, on n'est pas là pour récolter. Que le Seigneur le veut, ben, il nous exauce.
Mmh. Oui, c'est beau à entendre, hein, n'est-ce pas, Pierre Jamais ?
Oui, j'étais en train de penser que, évidemment, il y a une contrainte sanitaire qui est pesante. C'est le réel. Mais le propre d'être vivant, c'est précisément de savoir nous adapter à ce réel et donc d'imaginer de nouvelles possibilités. Et c'est ça qui est important. Alors, je repense à ce que disait Alain Esparbès tout à l'heure. Ce n'est pas la visibilité numérique qui doit nous conduire. Hein. C'est comment imaginer un pèlerinage qui commence bien avant, qui se continue après pour... Par exemple, prendre le temps de visiter et d'associer toutes les personnes malades, qui sont précisément toujours au cœur de notre pèlerinage. C'est un exemple. On voit bien aussi que cette contrainte sanitaire accélère d'une certaine façon la mutation de nos communautés. En moyenne, il semblerait que nous ayons perdu 30% de personnes. Nous ne voyons plus 30% au sein de nos communautés de personnes
qui ne viennent plus à la messe.
Qui ne viennent plus à la messe.
Au rendez-vous qui leur sont donnés.
Pour autant, cette situation que nous vivons fait aussi venir de nouvelles personnes. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire comment savoir les repérer, comment savoir les accueillir, comment savoir les accompagner, comment nous aussi entendre leurs demandes pour nous ouvrir à cette réalité-là.
Eh bien écoutez, nous allons nous arrêter quelques instants. Je vous propose de marquer une pause. Vous restez avec nous si vous le voulez bien, Pierre Gardère. Vous avez un peu de temps encore. Pierre Jamais, deux pierres avec nous. Pour le moment, c'est solide, hein, les pierres. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, c'est un pierre que l'Église s'est construite, si je puis me permettre. Alors, nous marquons cette pause. Juste après, nous aurons Anne-Rose Jankovic qui nous parlera de cette marche diocésaine. Elle se trouve en direct du côté, justement, des chapelles de lumière où un beau cierge va être allumé, déposé à l'issue de cette marche diocésaine. Après cette pause, nous continuons aussi à parler avec Pierre Gardère, Pierre Jamais, et puis également d'autres invités comme Sœur Eugénie, par exemple. À tout de suite.
Présence dans la cité mariale, 96.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour Vous répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Vous avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue.
Présence dans la Cité Mariale 96.
Et nous sommes en direct pour vous faire vivre un tout petit peu du pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. C'est un peu à défi qu'on se lance parce qu'en une heure, comment donner tous les visages, tout ce qui se vit au sein de ce pèlerinage de Bigorre dont on est très heureux de dire qu'il, un, il a lieu, vraiment, il se passe très bien. Et deux, évidemment pour Lourdes, c'est comme une bouffée d'oxygène que de voir son propre diocèse en marche et venir dans ce sanctuaire qui est quand même cette année très touché par beaucoup d'annulations de pèlerinages organisés. Nous sommes en compagnie de Pierre Jamais qui est vicaire général. Il y a également Pierre Gardère qui est là. Il est diacre et en particulier en mission du côté de Bagnères de Bigorre. Également viennent de nous rejoindre Dorota Jans qui s'occupe du patronage à Tarbes. Bonjour.
Bonjour.
Et puis également Muriel Esparbès. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes bénévole et vous vous occupez en particulier du soutien scolaire. Enfin, vous nous direz tout ce dont vous vous occupez dans ce diocèse. Nous continuons à parler avec vous, Pierre Gardère. On a eu cette immersion dans Bagnères de Bigorre, la paroisse, le doyenné, pour comprendre que finalement la communauté avait été mise à mal durant la période de confinement, que vous avez essayé de la soutenir par des moyens de communication, qu'il y a eu aussi des grâces qui ont été vécues, reçues dans ces circonstances-là. L'espérance est toujours chevillée au corps. Et parlons un petit peu de cette paroisse, de ce doyenné tel qu'il vit le pèlerinage de Bigorre. Puisque vous êtes là quand même, un certain nombre d'entre vous.
Bien sûr, tout à l'heure vous posiez la question de savoir si le doyen serait là demain. Oui, je vous confirme, le doyen sera là demain avec un certain nombre de pèlerins donc de la Haute-Bigorre. Voilà. Et donc on a fait de notre mieux pour préparer ce pèlerinage. Bien sûr, ça fait partie, si vous voulez, de notre évangélisation, entre guillemets, ou dans laquelle nous n'avons pas eu tous les moyens, nous n'avons pas pu mettre en place tous les moyens que nous avions les autres années, particulier, des tracts, des...
C'est un peu comme ça pour tout le monde.
Oui, hein. Oui, on est d'accord. Mais bon, grâce à l'accordé, on a pu quand même rejoindre beaucoup de nos paroissiens. Et donc, eux ont reçu quand même l'invitation pour venir demain. Enfin, pour venir, oui, demain, puisque c'est demain pour eux le pèlerinage. Mais nos jeunes sont là depuis hier. Ils sont là depuis hier, on fait la marche, donc...
Donc vous êtes bien là.
Oui, voilà, on est là.
L'accordé, d'ailleurs, c'est le nom du journal qui nourrit un peu toute cette vallée.
Tout à fait.
Quel beau nom, dans les circonstances que nous vivons, l'accordé. Il y a le premier de cordée, mais il y a tous les autres hein, dont on a besoin dans une cordée.
D'abord, c'est un journal qui donne la vie dans la vallée. Donc,
pour qui nous, donne c'est... même de l'âme.
L'âme
à la vallée.
L'âme, j'osais pas le dire. De l'âme dans la vallée.
Oui.
Oui, bien sûr, on pense à tous ceux qui travaillent là-dessus, à tous ceux qui nous aident et à tous ceux qui aussi lisent l'accordé, parce que sans eux, nous n'existons pas. Donc, effectivement, c'est un outil de mission, c'est un lien entre les différentes paroisses. Et enfin, dans les anciennes paroisses, hein, puisque bon, maintenant, donc, tout le monde est regroupé quasiment en ensemble paroissial, mais c'est pas beaucoup, on est regroupé beaucoup autour de Bagnères. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir travailler de façon beaucoup plus groupée et en église.
C'est un magnifique journal, je le dis parce que je le lis. Il y a toujours des dossiers structurés qui sont très nourrissants. Il y a également des nouvelles de toute la vallée et puis des témoignages. On y a la vie de foi incarnée telle qu'elle se vit dans cette vallée du Haut-Adour. Bravo,
merci beaucoup. Merci beaucoup.
Pensez à vous réabonner. Hein.
Ah oui, surtout. Oui. Oui. Surtout, au moins pour ceux qui ne le sont pas, pensez et surtout amener du monde.
Voilà.
Et en plus, ils ne sont pas avares.
Oui, c'est-à-dire
au niveau de la qualité,
oui.
C'est un papier quasi glacé.
Quasi. Bon, merci à vous Pierre Gardère, on vous laisse continuer.
Juste une parenthèse, allez-y. Nous sommes prêts à aider, si jamais il y a d'autres qui veulent se lancer là-dedans, nous sommes prêts à les aider.
Pour créer son journal.
Oui, absolument.
Oui. C'est vrai que vous avez une très très belle expérience. Anne-Rose Jankovic, bonjour.
Bonsoir Mathias, bonsoir à tous.
Bonsoir, où êtes-vous Anne-Rose?
Eh bien, écoutez, Mathias, je me trouve à proximité de la chapelle des Lumières, dans le sanctuaire, avec tous les bigourdans, tous les diocésains qui sont arrivés en procession. Ils sont partis ce matin de Saint-Savin après une messe. Ils ont marché toute la journée. Ils ont chanté, prié la Vierge Marie. Et là, peut-être les entendez-vous derrière moi. Ils chantent encore Marie. Et ils s'apprêtent à confier le diocèse de Tarbes-Lourdes à Notre-Dame de Lourdes. Voilà, Monseigneur Brouvet est en train de prendre la parole eh bien pour faire une prière au nom de tous ces bigourdans qui ont marché et puis ceux aussi qui n'ont pas pu venir, qui ne sont pas là physiquement en présentiel pour utiliser un terme un peu à la mode, mais qui sont là par la prière et que nous portons vraiment dans la prière depuis le début du pèlerinage, depuis hier et depuis ce matin en particulier. Donc Monseigneur Brouvet, en ce moment même, est en train de déposer un cierge que les jeunes, les 200 jeunes présents aujourd'hui ont porté les uns après les autres depuis Saint-Savin. Et ce cierge, eh bien, il représente toutes nos intentions de prière, toutes les intentions de prière de la Bigorre. Et voilà, on dépose ce cierge et on dépose toute cette la Bigorre, toute cette terre mariale au pied de Notre-Dame de Lourdes.
Anne-Rose, vous n'êtes pas sans savoir que la Vierge a demandé qu'on vienne en procession à Lourdes. Et donc le diocèse est en procession pour venir dans son sanctuaire.
Exactement. Et Monseigneur Brouvet rappelait ce matin que faire un pèlerinage, c'était... Ça voulait dire en patois bigourdan la même chose que la procession. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis ce matin, c'est ce que nous sommes en train de faire avec ces 200 jeunes, avec ces familles nombreuses qui sont venues cette année. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes parents, beaucoup d'enfants qui sont là aussi. Et puis, il y a des paroissiens d'un petit peu partout qui sont venus spontanément. Alors certains nous ont rejoints en cours de marche et puis certains nous ont rejoints à la porte Saint-Michel. Et voilà, on a devant cette chapelle des Lumières eh bien, un vrai visage de l'Église en Bigorre. C'est vraiment un temps très fort et unique parce que c'est la première fois qu'on fait cette étape. Hein. C'est une innovation dans notre pèlerinage de la Bigorre à Lourdes, ce temps-là, à la chapelle des Lumières, tous ensemble. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de joie, il y a une vraie ferveur. Et c'est vraiment beau de voir ce mélange des générations qui a une prière unique pour la Vierge Marie.
Et la distanciation sociale ainsi que les masques n'empêchent pas de vivre heureusement ce pèlerinage.
Exactement, et ça je peux vous dire que la prudence sanitaire est bien là. Quels que soient les âges, tout le monde a bien compris que le pèlerinage se passerait bien également si on respectait ces règles. Et puis ce masque, ce petit bout de tissu, eh bien, il n'enlève pas la foi, il n'enlève pas l'espérance, il n'enlève pas la joie d'être là. Et puis le sourire, ben, vous savez, il se voit aussi dans les yeux. Donc, ce petit bout de tissu, on s'en accommode. Et puis en avant. Voilà, en avant.
Voilà, la communication non verbale dans les yeux des gens, c'est vrai que c'est magnifique. Et aujourd'hui en particulier. Merci à vous, Anne-Rose. Merci beaucoup.
Merci.
Et nous sommes en compagnie, je l'ai dit tout à l'heure, de Pierre Jamais, vicaire général du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, pour cette émission spéciale. Et nous ont rejoint Dorota Jans et Muriel Esparbès. Mesdames, c'est maintenant votre tour de nous dire ce que vous vivez dans ce diocèse, sur ce territoire, dans cette Bigorre. Vous, Dorota, vous vous occupez du patronage à Tarbes. De quoi s'agit-il ?
Oui, exactement. Moi, d'abord, je voudrais parler un petit peu de l'histoire du patronage. En fait, le patronage en France est apparu au lendemain de la Révolution française. Et ils se sont développés jusqu'aux années 1950. Après, ils ont un peu disparu de la scène catholique française. Et là, en ce moment, on peut observer leur réapparition dans certains diocèses de France. Et en fait, dans notre diocèse, Tarbes-Lourdes, nous existons depuis 1er septembre 2019. Et patronage, c'est la continuité des vacances de la joie que diocèse avec la Fraternité apostolique de Jérusalem organise depuis quelques années. Et c'est pour cela qu'on l'appelle chez nous mercredi de la joie. Parce que nous nous retrouvons tous les mercredis en période scolaire de 9h à 17h. Et nous accueillons les enfants en âge de l'école primaire. Voilà.
Donc c'est vraiment de la joie parce qu'avec toute cette jeunesse et malgré les contraintes sanitaires, tout cela se déroule quand même.
Oui, bien sûr. Oui, bien
sûr.
Ça ne
pose pas de problème majeur, vous appliquez les règles et voilà.
Oui, voilà, quand vous le dites. Oui, quand vous le dites, bien sûr, c'est un peu contraignant, mais l'important que la joie est là, nous sommes tous motivés d'apporter tous nos talents au service des enfants. J'aimerais bien juste dire que je me souviens quand pour la première fois, Frère David Marie, de la Fraternité apostolique de Jérusalem, qui est à l'initiative du patronage de notre diocèse, il m'a parlé pour la première fois de patronage. Ce mot-là, elle était un peu inconnue à mon vocabulaire. Après, je commençais à me renseigner et je vis qu'en Europe, c'était Saint Jean Bosco qui était vraiment à l'origine de patronage en Italie au XIXe siècle. Et c'était un de mes saints préférait ce saint patron des éducateurs. Et le mot-clé, c'était pour lui, pour le patronage à l'époque en Italie, c'était la prière. En fait, le jeu et la prière. Évangéliser par la prière et après inciter aussi les enfants à la prière. Et comme c'est vraiment quelqu'un qui est très très proche à mon cœur, je me suis lancée, voilà.
Eh bien, bravo, avec ce beau sourire que nos auditeurs ne voient pas, mais que moi je peux voir et dont
Merci.
Je témoigne auprès des uns et des autres. Comment vivez-vous ce pèlerinage, Dorota ?
Moi, c'est très bien, très bien. Je me laisse aller, je rencontrais beaucoup de personnes, ça m'enrichit personnellement énormément. Toutes ces rencontres. J'ai beaucoup aimé l'homélie de l'évêque aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé parce qu'il a parlé en fait de notre devoir en tant que chrétien, de la liberté, de notre enthousiasme aussi, qu'on doit aussi apporter aux autres. On ne doit pas avoir peur aujourd'hui d'être chrétien. Tout simplement. Et là, vraiment, je me suis vraiment imprégnée. J'ai beaucoup apprécié l'homélie. Et après, bien sûr, voir tous ces jeunes, tous ces enfants, les familles, le fait qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui, on le sait très bien, ce n'est pas facile. Mais vraiment, c'est très, très bien qu'on peut se rencontrer tous ensemble.
Dorota, toute petite dernière question. D'où nous vient ce bel accent, ce beau petit accent que vous avez?
Eh bien, je suis polonaise. Je viens de Pologne, dans la région depuis 6 ans que j'habite, mais en France, un petit peu plus longtemps. Voilà.
Bravo, parce que vous maîtrisez la langue française de façon exceptionnelle. Parfaite même.
Merci.
Merci Dorota. Donc je rappelle que vous vous occupez du patronage et pour ceux que ça intéresserait qui nous écoutent, eh bien voyez, on vous montre les différents visages de ce diocèse de Tarbes-Lourdes qui est en pèlerinage en ce moment dans son sanctuaire, le sanctuaire de Lourdes. Et un de ces visages, c'est le patronage à Tarbes. C'est vraiment la joie pour les enfants. Oui. Et disons-le autour de nous et faites le test. Inscrivez vos enfants, hein,
voilà.
Vous verrez.
Si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse www.catholique65.fr/patronage. Et on a besoin aussi de bénévoles.
De bénévoles.
Ah oui, pour renforcer notre équipe cuisine, pour nous aider en tant qu'animateurs. Vraiment, tout le monde est bienvenu.
Animation, cuisine,
avec joie.
Il y a plein
oui,
de fonctions
voilà,
à occuper.
Voilà, exactement.
Bravo.
Oui, oui, oui.
Bon, ben voilà, l'appel est lancé. Muriel Esparbès, vous êtes bénévole, justement. On parlait de bénévolat.
Tout à fait, oui.
De quoi vous occupez-vous? Vous êtes en charge du soutien
Alors,
scolaire?
Alors, moi, je m'occupe plus particulièrement du soutien scolaire. Voilà, oui. Les enfants arrivent le matin, ils peuvent faire leur travail, ce qui permet aux parents...
Ils arrivent où exactement?
Ils arrivent à la maison Saint-Paul, ils vont voir Dorota.
C'est la maison diocésaine.
Voilà, c'est la maison diocésaine. Ils vont voir Dorota, ils s'inscrivent, ils prennent leurs petites étiquettes. Et ensuite, certains viennent avec 2-3 bénévoles pour le soutien scolaire. D'autres peuvent aller jouer. Le soutien scolaire, c'est... En fait, on est avec les enfants. Ça leur permet aussi de travailler avec d'autres personnes que les parents, de ne pas avoir cette relation affective. Pour certains, ça leur permet de s'épanouir. Et pour certains parents, d'avoir une soirée du mardi plus tranquille avec le travail qui sera fait de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable. Donc ça dure environ 3 quarts d'heure. On a une séance de 9h à 9h45 et ensuite une autre de 11h à 11h45. Après, les enfants vont à la louange, à la chapelle avec le frère David-Marie, où ils louent. Et ensuite, le catéchisme pour ceux qui veulent. Et puis pour ceux qui sont déjà catéchisés dans leurs écoles ou dans les paroisses, viennent avec moi pour ce qu'on appelle bien pompeusement les petits philosophes. Voilà. Donc on réfléchit à des sujets qui les concernent ou qui pourront les concerner. Donc là, on a réfléchi sur la vérité, sur la rumeur. On va parler de la beauté. Enfin voilà, on prend tout un tas de sujets. Et puis on leur parle... Voilà, et moi j'éclaire ça, je témoigne de ma foi et la manière dont on peut éclairer des réponses données à des sujets par rapport à une foi reçue. Après, c'est le match de foot obligatoire juste avant le déjeuner, car il n'y a pas de patronage en football avec les garçons. Le repas en fraternité, c'est-à-dire que voilà, les tables sont faites en fraternité avec les services. La vaisselle se fait après en fraternité. Et l'après-midi, même chose. Il y a 3 pôles. Souvent, un pôle de jeu, un pôle de découverte et puis aussi un pôle de bricolage. Et chaque fraternité passe. Ce que disait Dorota, Jean Bosco, l'évangélisation par le jeu et par la prière. Eh bien là, on veut leur montrer qu'on est adulte en frères, alors qu'on ne s'est pas choisi, et que eux aussi sont en fraternité pour toutes les activités. C'est important aussi de vivre ça, et c'est important aussi que les adultes leur témoignent aussi de ce qu'est une fraternité. Moi, je suis persuadée qu'on est responsable des adultes qu'on fera demain, et en tant qu'éducateur, c'est important de leur montrer ça. Bon. Et c'est une très belle expérience. Et
comme adulte, j'ai presque envie de m'inscrire.
Eh bien, écoutez, venez comme bénévole.
Et le père Jamais, il a presque envie aussi de.
Oh, ben le père Jamais sur place, il pourrait venir aussi.
Le foot,
pas jouer au foot.
La cuisine, le bricolage.
Ça donne envie.
C'est vraiment une journée qui est physiquement importante, mais qui est très, très belle et très riche.
On a vraiment envie de s'inscrire. Enfin, je suis sûr que ceux qui nous écoutent se disent « Mais quand même, on ignorait que ça existait. Allons-y, quoi !»
Il y a beaucoup de choses qui se font.
Bravo, bravo. Voilà. Et merci d'être au pèlerinage aussi cette année. Pèlerinage qui, bien sûr, a dû s'organiser dans les circonstances qui s'imposaient à lui.
Voilà.
Bon. Merci à vous, Muriel Esparbès. Merci à Dorota Agence.
Merci beaucoup.
Et encore une fois, vraiment, vous nous avez donné l'eau à la bouche, comme on dit parfois. On a envie de passer ces patronages avec vous. Bravo. Nous marquons une autre pause musicale, si vous le voulez bien. Juste après, nous continuons ce dialogue avec tous ceux qui nous montrent ce qu'est le diocèse de Tarbes-et-Lourdes dans sa belle diversité. Diocèse qui est en pélé en ce moment, bien sûr, dans son sanctuaire à Lourdes.
Je suis née dans la boue, sans aucun horizon, que rester à genoux, sans chercher de raison. Je suis née dans la boue, parce que c'était ma place. Alors pourquoi
plateau de Lannemezan, 92.2.
Et nous sommes à Lourdes en direct pour vivre avec vous ce temps partagé avec une partie des personnes qui participent ou qui organisent le pèlerinage diocésain de la Bigorre à Lourdes, qui se déroule durant tout ce week-end. D'ailleurs, pour ceux que cela intéresserait, la messe de demain, c'est à 11h. Vous pouvez y venir. C'est dans un très grand espace, puisque c'est dans la basilique souterraine Saint-Pédis à 11h. Vous y serez les bienvenus. Et durant tout ce week-end, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des jeunes, et puis des personnes qui viennent en pèlerinage, tout simplement. Alors avec, bien sûr, les règles sanitaires qui s'imposent à chacun, mais tout cela se passe dans vraiment une ambiance bon enfant, dans la joie d'être dans un sanctuaire qui, évidemment, est rayonnant et rayonnant d'une grâce tout à fait particulière. D'ailleurs, en ce moment même, les enfants, les jeunes, les pèlerins sont à la grotte, accompagnés par leur évêque, Monseigneur Nicolas Brouvet. Ils ont bu, Sœur Eugénie, un petit verre d'eau de la source, je crois. Bonjour, ma sœur.
Oui, bonjour Mathias. Oui, effectivement, nous, on a quitté un petit peu avant pour vous rejoindre et on vient de boire un verre d'eau qui nous a été servi par les hospitaliers. Et après, la foule des pèlerins se dirigeait vers la grotte où ils sont en ce moment.
Bon. Vous, Sœur Eugénie, vous vous occupez de la catéchèse dans ce diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Oui.
Merci d'être là, de vous être un peu échappé de la dynamique, de l'animation, de l'accompagnement avec toute cette jeunesse. Il y a également Cécile Laborde qui est là. Bonjour, Cécile.
Bonjour.
Vous-même, vous êtes catéchiste.
Catéchiste dans la vallée de Luz.
Voilà.
L'ensemble paroissial de Luz. Donc, qui accueille les enfants venant de Barège, de Gavarnie, de Gèdre et la vallée de Luz. Voilà.
Combien d'enfants participent à ce pèlerinage ?
Une douzaine.
Une douzaine. Et vous
avec
les accompagnez.
Leur famille.
Bravo.
Oui.
Et ça se passe pour le mieux ?
Très bien. Les enfants sont motivés. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées dimanche. Mmh. Hein, il y a un atelier de bricolage le dimanche après-midi, plus notre évêque qui s'adresse donc aux enfants. Donc les enfants attendent d'une année sur l'autre de venir à ce pèlerinage et leurs parents aussi. Voilà, les enfants ont bien compris que Bernadette, l'histoire de Bernadette, la vie de Bernadette les touche beaucoup. Et c'est pour eux quelque chose de concret. Donc, ils comprennent que Bernadette les conduit à Marie et que Marie les conduit à Jésus.
C'est fondamental, hein, la catéchèse dans un diocèse, Sœur Eugénie. parce que c'est par là que ben, on entre dans un chemin de foi pour beaucoup d'enfants.
Oui, oui, c'est vrai que je pense que la catéchèse, c'est les plus jeunes du diocèse, mais c'est le présent et c'est aussi l'avenir de l'Église. Et donc, eh bien, ça fait partie, je pense, des choses qui sont capitales. Et on essaye de donner beaucoup d'énergie pour que ces petits puissent s'approcher du Seigneur. Et par eux, je pense que beaucoup de familles s'approchent un petit peu de l'Église. Et d'autres, bien, y cheminaient déjà et s'investissent davantage.
Justement, où en êtes-vous dans le diocèse du point de vue du nombre d'enfants que cela concerne? Bon, il en faut toujours plus. Enfin, on aimerait, on rêverait,
oui.
Mais
alors,
vous en
êtes où? On va dire que c'est un peu difficile à cette époque-là de l'année de savoir combien on a d'enfants. Les enfants sont réunis par paroisse. Et l'année dernière, à la fin de l'année, il y avait environ 900 enfants pour l'ensemble des ensembles paroissiaux. Alors, on aimerait toujours qu'il y en ait plus, mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, avec le fait que certaines paroisses sont petites et puis un peu parfois éloignées, ce n'est pas toujours facile, mais cela étant dit, beaucoup de prêtres y mettent beaucoup de cœur pour essayer de réunir leur petit troupeau. Et puis, il y a aussi peut-être 150 catéchistes qui consacrent beaucoup d'énergie à rester là, même si elles voient que les groupes ne sont pas nombreux. Donc ça, c'est très, très beau. Et je pense qu'on peut les remercier si toutefois il y en a qui nous écoutent.
Mais merci à vous, Cécile. Vous représentez les catéchistes aujourd'hui pour nous. Cécile Laborde, hein, donc vous nous avez dit que vous étiez vous catéchiste du côté de Luce.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en marche, à devenir catéchiste?
Je témoigne de ma foi.
Oui.
Voilà, et pour moi, témoigner de ma foi, ben, ma foi, c'est primordial. Ça me permet d'avancer aussi et ça me permet de communiquer avec les parents et de les amener sur un chemin de foi avec les moyens que j'ai.
Je vous remercie, je vois que l'heure tourne, il va falloir qu'on fasse parler tout le monde et Maxime nous a rejoint.
Bonjour.
Bonjour Maxime. Vous, Maxime Véder, vous êtes en mission, hein, pourrait-on dire. Expliquez-nous ce que vous vivez, ce que vous faites aujourd'hui.
Alors exact, je reviens à l'instant de l'école Pierre, donc c'est une école d'évangélisation et de formation créatrice pour l'Église. Donc voilà, j'ai choisi de m'engager dans cette école pour me former et revenir après servir mon diocèse.
Et c'est votre diocèse que celui de Tarbes-et-Lourdes. Hein,
tout à fait, exactement. Donc je viens essentiellement du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. J'ai fait énormément de camps avec la communauté de Jérusalem, avec les franciscains et quelques pélés diocésains. Et donc j'avais vraiment à cœur de montrer qu'on peut être un jeune engagé dans l'Église et avoir cette vocation de se former pour servir l'Église et mon diocèse.
Quel âge avez-vous, Maxime?
Moi j'ai 20 ans. Donc ça fait j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 8 ans par la communauté de Jérusalem et donc voilà l'année dernière j'ai eu cet appel du Seigneur de me dire voilà je t'ai donné des talents que ce soit en musique, que ce soit en composition, que ce soit en événementiel pour l'Église, ben voilà mets ces talents à mon service et viens vraiment te mettre au service de ton diocèse. Voilà.
Cette école dont vous nous avez parlé, qui est l'école Pierre, hein, qui se situe à Lyon, ça dure combien de temps? Une année?
C'est ça, c'est une année de formation où on est entouré par des professionnels qui sont vraiment ultra compétents. Pour ne citer que lui, on a David Gray, qui, pour ma part, je suis en louange, qui nous accompagne dans tout ce qui est technique live, etc. Donc c'est le batteur de Glorious, pour ceux qui le connaîtraient pas. Cédric Dumoulin, qui nous accompagne en MAO. Voilà les frères Pouzin qui viennent nous encadrer dans tout ce qui est prédication, prêche, etc. On a aussi des cours à la Cato à Lyon dans tout ce qui est théologie, voilà, dans le but de se former complètement pour servir dans nos diocèses et répandre la bonne parole du Seigneur.
Bravo à vous Maxime Véder. Il nous reste 2 minutes, Pierre Jamais, pour conclure cette émission spéciale. Approchez-vous du micro. Donc c'est la joie hein, que ce pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Et pourtant, que de souffrance quand même dans notre société, dans ce monde actuellement. Alors je ne voudrais pas être rabat-joie, mais tout de même, pour terminer cette émission spéciale, on ne peut pas ne pas rendre hommage à tout le travail qui est fait dans le monde éducatif français qui est frappé de plein fouet en ce moment par ce terrible attentat qui a eu lieu hier. Donc je pense qu'on peut terminer comme ça, peut-être même en ayant une pensée spéciale, une prière pour eux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Comment garder l'espérance malgré tout, malgré des circonstances qui sont parfois accablantes?
C'est déjà reconnaître et remercier tous ceux qui œuvrent pour les enfants, pour les jeunes, pour l'éducation, pour leur croissance. C'est un travail sans fin qu'il faut toujours reprendre. Et bien évidemment, il y a des entravers, des événements qui surviennent et qui peuvent d'une certaine façon casser la dynamique ou se dire ben, à quoi bon. On peut être pris par la sidération, par de manière parfois tragique. Mais l'espérance est là. Et l'espérance, ben, on la voit. Et on l'a vu avec ce qui nous a été partagé. Et encore une fois, je tiens vraiment à remercier tous ceux et celles qui, dans le diocèse, sont là pour donner du temps, de leur créativité, de leur imagination, pour faire croître, on va dire, en sagesse, tous ces enfants et tous ces jeunes du diocèse. Il était question du patronage. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui n'ont pas forcément été nommés ou qu'on n'a pas forcément vu là tout de suite, là maintenant, mais il y a le mouvement eucharistique des jeunes, il y a l'ACE, qui sont aussi dans cette même intuition, c'est-à-dire faire en sorte que à l'enfant, que l'enfant puisse se dire « Mais qu'est-ce que moi, je vais partager de ce que j'ai reçu ?»
Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à vous Pierre Jamais. Émission spéciale sur le Pélé de la Bigorre. Merci à tous.